Vous écoutez
RMC. 5-7, le Morning RMC.
Et à 6h, c'est l'heure des infos avec Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu et bonjour à tous.
À la une, un œil sur le détroit d'Ormuz, l'autre sur les prix à la pompe.
Après l'annonce de l'accord de paix, les premiers pétroliers sont passés. La baisse des carburants sera-t-elle aussi rapide que les hausses ? Réponse dans un instant. Je vais te faire disparaître en t'envoyant des Géorgiens. Ces mots, cette menace, Éric Ciotti, le maire de Nice, accuse le ministre des Transports de l'avoir proféré. Et puis les Bleus entrent en piste ce soir à la Coupe du Monde. France-Sénégal, match déjà crucial pour la suite de la compétition.
Concrétisation sur le terrain de l'accord Iran-USA. De premiers pétroliers ont traversé le détroit d'Ormuz.
Avant même la signature officielle du protocole prévu vendredi en Suisse, date à laquelle le détroit sera totalement rouvert, sans péage, promettait encore Donald Trump hier. Espoir et vigilance à la pompe chez nous. Sébastien Lecornu a prévenu que le gouvernement attend une baisse des prix aussi soudaine que la flambée. Alors à quoi peut-on s'attendre, Victor Joinin?
Les prix dans les stations-service vont s'ajuster progressivement au fur et à mesure de leur réapprovisionnement. Attention, la situation reste volatile. Tout regain de tension ferait repartir les cours à la hausse. Mais à quelques semaines de l'été et des grands départs, l'économiste Thierry Brault est optimiste.
Si le prix du Brent reste au niveau où il est, aux alentours de $80 par baril, eh bien, on aurait un prix à la pompe qui, dans 15 jours, serait autour de 1,80 €. Le litre
de gasoil et d'essence a s'élevé à 1,70 € avant la guerre. Mais pour revenir à cette situation, il faudra être patient, avertit Salomé Ruel, enseignante en logistique, car la production de pétrole au Moyen-Orient a été durablement endommagée.
On a quand même des installations pétrolières qui ont été touchées massivement sur la zone, qui doivent se reconstruire. Et ça peut prendre, selon les différentes installations, des mois, voire des années. Se dire qu'on va voir les prix baisser, oui. Revenir par un coup de baguette magique au prix d'avant-guerre, là, tout de suite, maintenant, non.
La suite dépendra aussi du contenu de l'accord. L'Iran sera-t-il parvenu à instaurer un péage, une mesure qui serait synonyme d'incertitude sur les marchés et donc de cours plus élevés?
Et pour faire le point, les distributeurs de carburant sont attendus à 11h au ministère de l'économie.
Sébastien Lecornu qui dit sa vigilance sur la baisse attendue des prix des carburants. Vous aussi, vous attendez cette baisse? Est-ce que vous l'attendez rapide? Est-ce que vous espérez qu'elle soit rapide? Vous nous le dites ce matin au 3216 et sur le WhatsApp RMC au 0612 424 424.
Elle aussi est épiée la réaction israélienne. L'armée restera aussi longtemps que nécessaire à Gaza, au Liban et en Syrie. C'est ce que martelait hier le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, juste avant d'officialiser sa candidature aux élections législatives. Au Liban, une frappe israélienne a fait un mort dans le sud du pays hier. Le Hezbollah dit aussi avoir repoussé à coups de roquettes l'avancée de forces israéliennes. En France, plus d'un millier de manifestants devant le ministère de la Justice et différents tribunaux. Un premier lundi de protestation que les associations veulent rééditer chaque semaine après la mort de Liana. Elles réclament, ces associations, toujours une loi intégrale sur les violences sexistes et sexuelles. Le Premier ministre a reçu les parlementaires qui portent ce sujet.
On est dans le sillage de cette affaire Liana et puis il y a eu les affaires de périscolaires. Ne manquez pas le choix de la rédaction juste après ce journal. Vous entendrez ces parents qui doutent et qui hésitent à envoyer leurs enfants en colonie de vacances désormais. On en est là. Tout autre sujet qui se retrouve sur le bureau du Premier ministre. Sébastien Lecornu va lire une lettre que lui a envoyée Éric Ciotti. Il y dénonce le ministre des Transports.
Philippe Tabarot, coupable selon le maire de Nice de l'avoir menacé. L'édile demande sa suspension du gouvernement. Tobin Becker du service politique de RMC. Tout ça se serait passé lors d'un déplacement d'Emmanuel Macron dimanche dernier.
Oui, alors qu'Éric Ciotti, maire de Nice, accueille la délégation présidentielle, Philippe Tabarot, ministre LR des Transports, aurait traité l'ancien président des Républicains de nabo. Selon le Canard enchaîné, le ministre se serait ensuite approché d'Éric Ciotti et lui aurait soufflé à l'oreille, je cite, « Je vais te faire disparaître en t'envoyant des Géorgiens ». Cette phrase apparaît dans un signalement adressé au procureur selon les équipes d'Éric Ciotti. Sollicité hier soir, le cabinet du ministre Tabarot n'a pas répondu. Sébastien Lecornu a reçu hier soir un courrier d'Éric Ciotti signalant les faits. Selon les informations d'RMC, le Premier ministre a bien pris connaissance de la lettre et a découvert l'incident supposé hier soir. Pour le moment, aucune décision n'a été prise par le Premier ministre.
Thomas Becker du service politique d'RMC. Ce long lundi de galère pour quelques 290 passagers d'un train Paris-Clermont-Ferrand arrivé à destination, écoutez bien, avec 8 heures de retard à cause d'une panne de locomotive, panne d'origine encore inconnue. Ils vont être remboursés à hauteur de 200% du prix de leur billet. La SNCF qui lance aujourd'hui une opération petit prix, 3 jours et 100 000 billets TGV du mois d'août à partir de 19 €, sans préciser exactement quelles lignes sont concernées. Et puis deux départements du Sud-Ouest en vigilance orange incendie aujourd'hui. Il s'agit de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Risque de feux de forêt accentué par la chaleur. Plus de 30 degrés attendus dans la plupart des régions.
Et alors c'était chaud aussi cette nuit aux États-Unis.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Le dernier résultat, c'est ce match nul de partout entre la Nouvelle-Zélande et l'Iran. Match à Los Angeles, évidemment particulièrement scruté. Nicolas Pelletier, en direct avec nous, vous y étiez pour RMC. Au vu du contexte international pour cette entrée en lice de l'Iran, Nicolas, ce qu'il se passait en dehors de la pelouse était aussi très observé.
Oui, de nombreuses manifestations à l'extérieur de l'enceinte et même à l'intérieur, l'ambiance était particulière. Après des mois de doutes sur la participation iranienne, ce grand drapeau du pays déployé sur le terrain en terre américaine marque ce début de Coupe du Monde devant 70 000 personnes, dont une grande partie de la communauté iranienne de Los Angeles. La soirée a notamment été marquée par les huées sur l'hymne national iranien par une partie du public iranien qui avait prévu son action.
Je tournerai le dos à l'hymne iranien. Je ne soutiens pas le régime actuel et je ne soutiendrai pas son hymne. Mon cœur sera toujours avec le peuple iranien.
Malgré une préparation compliquée, l'équipe iranienne n'a pas démérité en revenant deux fois au score. Les joueurs doivent rentrer au Mexique dans les prochaines minutes avant de revenir à Los Angeles dimanche pour y affronter la Belgique.
Nicolas Pelletier, l'un des nombreux envoyés spéciaux de RMC aux États-Unis pour ce mondial. Mondial qui nous a offert une journée 100% match nul. 0-0, miraculeux pour le Cap-Vert face à l'Espagne. Un partout entre la Belgique et l'Égypte. Pareil entre l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Ce petit faux pas d'entrée, c'est ce qu'on veut absolument éviter pour nos Bleus. C'est le grand jour. Premier match contre le Sénégal ce soir à 21h à suivre évidemment sur RMC. Florent Germain, réussir son entame de compétition, c'est presque un mantra pour l'équipe de France.
Oui, c'est une obsession pour Didier Deschamps, rabâché aux médias et surtout aux joueurs depuis que les Bleus connaissent leur programme. Une Coupe du Monde réussie passe forcément par un premier match maîtrisé. Le milieu de terrain N'Golo Kanté en est aussi persuadé.
C'est ce qu'on veut depuis qu'on se prépare pour la Coupe du Monde, depuis qu'on sait que c'est le Sénégal qu'on va jouer en premier et qu'on connaît les adversaires. On veut très bien commencer pour se lancer bien dans la compétition.
La moitié des joueurs choisis par Didier Deschamps va d'ailleurs découvrir le parfum d'une Coupe du Monde, le MetLife Stadium de New York, 80 000 personnes. La pression, l'émotion, le sélectionneur des Bleus est vigilant avant ce grand rendez-vous.
C'est l'aspect émotionnel qu'on n'arrive pas à mesurer, à quantifier sur des joueurs qui peuvent être d'une nature plutôt détendue, relâchée, qui peuvent se crisper de par l'importance du match ou l'environnement aussi. L'idéal, c'est d'être concentré et décontracté.
Bonne nouvelle, avec Deschamps, la France n'a jamais perdu un premier match dans une grande compétition. La dernière fois que cela est arrivé aux Bleus, c'était en 2002 contre le Sénégal, justement.
Et je vous donne le programme.
C'est bien, pardonnez-moi, c'est bien qu'ils stressent un peu les joueurs, il y a de l'enjeu. C'est une Coupe du Monde.
Hein.
On va pas se goberger là, attendre tranquillement que ça arrive et prendre les trois points. On joue.
Ouais. Vous voulez le programme de ce soir ?
Allez-y.
Allez, à partir de 20h, intégrale Coupe du Monde avec Jean-Louis Tour qu'on retrouvera à 7h40 chez Apolline tout à l'heure. Et puis dès le coup de sifflet final, c'est l'after qui prend le relais depuis New York, s'il vous plaît, jusqu'à 5h du matin. On vous fera donc vivre aussi le premier match d'un autre favori, l'Argentine de Lionel Messi, Argentine-Algérie, coup d'envoi à 3h du matin.
Ah, vous avez oublié que dès 18h, Jérôme Rotten. Non mais on n'arrête pas, c'est sans arrêt. Il y a la radio 100% Coupe du Monde.
Toujours la
Coupe. Non mais j'insiste, il y aura deux champions du monde ce soir pour encourager les Bleus, Samuel Umtiti et Manu Petit.
Ah, j'allais dire Lionel Charbonnier.
Non mais on manquera rien.
Il goberge un peu, je trouve.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est possible. Alors, merci Victor, c'était complet, c'est le journal, 6h09. Ce matin, tu nous as parlé de l'information et du fait qu'on s'informe de plus en plus, Élise, sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, plus que sur les médias traditionnels.
Ça y est, maintenant, on a passé le cap, et ce, à l'échelle mondiale. C'est une étude de l'Institut Reuters qui nous l'apprend. Le public, en général, à l'échelle mondiale, s'informe davantage à présent sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, que sur les médias traditionnels. Et ça a fait réagir Tony, qui a composé le 32-16 ce matin. Bonjour Tony.
Ouais, bonjour l'équipe, vous allez bien?
Ça va, on est rassurés parce que vous, vous écoutez encore RMC.
Ouais, je suis pas tout seul, hein. Je parle avec mes collègues, non, je suis pas tout seul, surtout.
Mais surtout, c'est vrai qu'en
tant que chauffeur poids lourd, bon, c'est vrai que moi, je commence vers les 5h du matin, ma première information, c'est pas le portable. Hein. Moi, je suis encore 56 ans, je suis d'une génération où... voilà, je suis encore plus sur les grandes ondes, on va dire. mais bon, après, moi, je vois mon fils qui a 18 ans. Bon, lui, c'est vrai que lui, sa première source d'information, c'est vrai que c'est les réseaux sociaux. Mais ça arrive souvent qu'il me dit, tiens, papa, il descend dans le salon, viens, on met BFM, regarde un petit peu. Ouais. J'ai l'impression, quand il veut vraiment des informations sérieuses, bon, c'est vrai que moi, depuis petit, je lui dis toujours, ah, attention à ce que tu vois sur les réseaux, faut en prendre, faut en laisser. Et puis
mais il en a conscience. J'ai l'impression, dans ce que vous dites, qu'il en a conscience, que c'est une autre manière de s'informer.
Ouais, puis je sais pas, moi, depuis l'âge de 12 ans, lui, il est intéressé par ça. Moi, je sais que même à 18 ans, là, ce qu'il a aujourd'hui, je m'en rappelle pas avoir regardé un journal d'information. Enfin, ça m'intéressait pas. Et lui, apparemment.
Attendez, puis, en plus, il y a des choses qui sont très bien hein, sur les réseaux. Il y a des choses qui sont très bien faites. Le problème, c'est de faire le tri. Il y a Yannick qui nous écrit, c'est très préoccupant. C'est le système d'information des jeunes. Il y a souvent n'importe quoi sur les réseaux, dit-il. Mais Mélissa nous écrit, j'avoue, je regarde régulièrement Facebook. Mais quand je vois une info, je cherche toujours sur un site que j'appellerais une source sûre pour être complètement sûr de ce que je peux lire. Vous avez été nombreux à réagir hein, à cette info que tu lui donnais, Élise. Je m'informe et je vous regarde sur RMC et Story toute la semaine. C'est mieux de suivre les infos à l'antenne. Mais j'avoue, je suis beaucoup sur Twitter pour suivre l'actualité aussi. Nous dit Greg, voilà, Tony, c'est un peu le débat que vous avez à la maison entre vous et votre fils, et sur la route, il n'y a rien de mieux qu'RMC, ça on est d'accord.
C'est pour vous accompagner
sur la route. On fera pas mieux qu'RMC, que ce soit pour l'info, les débats ou le foot. Merci Tony de votre appel.
Allez, bon courage à vous.
Bon courage et un salut à votre fils. Un salut à votre fils, peut-être que bientôt sera un auditeur d'RMC, qui sait.
Oui, moi j'y crois. Et puis il n'y a rien de mieux qu'RMC pour gagner un peu de sous.
Allez.
C'est l'heure, hein. Il est 6h12 et ça y est, vous avez 10 minutes pour jouer et tenter de remporter la prime de match. Elle est à combien ce matin? On est à
53 000 euros.
On est parti de 30 000. On rajoute 500 à chaque but parce qu'on est très généreux.
Et ouais, c'est vrai, il n'y a eu que des matchs nuls cette nuit, mais des buts. Il y a eu 2-2, il y a eu un. Bref.
Donc ça remplit la caisse et la prime de match que vous pouvez remporter en envoyant but au 7-32-16. But au 7-32-16. Vous avez 10 minutes jusqu'à 6h22. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et dans un instant, c'est le choix de la rédaction. On va retrouver Louise Salé. Bonjour Louise.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise.
L'affaire Liana et les récents scandales d'abus sexuels dans le périscolaire vont-ils avoir une incidence sur les vacances des enfants cet été? Certains parents y songent, Louise.
Oui, ça questionne beaucoup de familles. Des parents renoncent même à envoyer leurs enfants en colonie de vacances cet été.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
5h-7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h16 sur RMC, RMC Story.
RMC, le choix de la rédaction.
Après l'affaire Liana et les scandales d'abus sexuels dans le périscolaire, les parents ont-ils peur d'envoyer leurs enfants en colonie de vacances cet été? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans le choix de la rédaction.
Bonjour Louise Salé.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu.
Louise, vous avez constaté que beaucoup de familles s'interrogent en ce moment sur ce sujet, évidemment.
Oui, hein, certains parents renoncent même à envoyer leur enfant en colonie de vacances cet été. Pour RMC, Lucas Laubert a rencontré Karim, dont la fille aînée a 8 ans. Elle a déjà participé à un séjour l'an dernier, mais n'y retournera sans doute pas cet été.
Ah, c'est pas facile, hein, on y pense, on appréhende. Si je peux éviter, j'éviterai. C'est compliqué de savoir à qui on a affaire. Et avec toutes ces histoires, ça nous fait peur de plus en plus, vous voyez.
D'autres se disent très vigilants sur l'organisation des séjours. Ils s'interrogent sur la façon dont les enfants sont encadrés.
Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément habilités ou en tout cas qui n'ont pas les façons de faire avec des petits-enfants.
Forcément, une colonie, dans ce contexte, elle doit mettre en place une politique. Elle doit justifier que les accidents ne vont pas arriver. Et je pensais au taux d'encadrement. C'est important de se dire qu'il y a toujours plusieurs adultes autour des enfants et plutôt des femmes, on espère.
Ces inquiétudes, elles n'existaient pas avant, Louise?
Alors, c'est pas nouveau hein, que les parents craignent pour la sécurité de leurs enfants. L'Observatoire des vacances des enfants a publié hier un baromètre sur les séjours collectifs pour mineurs. Et cette inquiétude hein, pour la sécurité des jeunes est citée parmi les principaux motifs de renoncement à une colonie de vacances en 2025 pour un quart des parents interrogés. Alors, c'est la même proportion qu'en 2023, donc ça reste relativement stable. Mais pour l'été 2026, les mairies qui organisent des colos perçoivent une inquiétude encore plus marquée. Antoine Jouenne, copréside de la commission éducation de l'Association des maires de France.
Depuis quelques mois, on constate effectivement des questions qui sont plus nombreuses qu'avant et qui sont aussi plus précises, avec besoin de comprendre précisément comment sont recrutés aujourd'hui les animateurs. Ça peut être à la fois des questions lors des réunions de préparation pour ces colonies, mais ça peut aussi se manifester par des mails, par des courriers.
Les communes expliquent aux parents que le casier judiciaire de chaque animateur est examiné. Une plateforme de l'État permet aussi de vérifier si cette personne n'a pas fait l'objet de signalements dans d'autres structures, même s'il n'y a pas eu de plainte ou d'enquête judiciaire.
Et alors, du côté des organismes privés de colonies de vacances, Louise, est-ce qu'on ressent la même inquiétude des parents ?
Ils constatent une baisse des inscriptions cet été, ça c'est certain, de l'ordre de 5% environ par rapport à l'an dernier pour les structures que j'ai interrogé, mais pour eux, la raison est principalement économique, parce que cette année, des aides de l'État pour financer des séjours ont été drastiquement réduites. Agnès Batiani dirige une fédération d'associations qui organisent des colonies de vacances.
C'est pas la sécurité qui les freine, c'est vraiment les questions financières. Nous, on a quand même une culture de la formation de nos animateurs. Il y a tout un protocole de sécurité qui est mis en place depuis des années. C'est pas dans le périscolaire, c'est dans les colos, mais dans les colos, c'est extrêmement réglementé.
Les inspections des colonies vacances sont en effet assez nombreuses. Le nombre minimum d'encadrants qui disposent d'un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur est scruté de près. Et ce brevet contient d'ailleurs depuis peu un module spécifique à valider sur le traitement des violences sexuelles.
Merci beaucoup Louise Salé. Le débat, vous l'avez en famille, à la maison. Est-ce qu'on envoie les gamins en colo ou non? Comme on a pu parler il y a deux semaines d'aller en soirée pyjama ou non. Vous nous le dites au 32-16 ce matin, cette interrogation, vous l'avez. Parfois, vous aviez évidemment réservé, voire payé avant que ces scandales n'éclatent. Est-ce que ça remet en question les vacances? On vous attend ce matin, vous serez les bienvenus sur RMC en direct. Merci Louise, c'était le choix de la rédaction. Il est
6h19. J'ai fait une chanson, je sais pas pourquoi. Pour changer le monde.
Vous avez l'impression d'entendre Johnny ou pas?
Bah oui, quand même.
Ah bah c'est normal parce que c'est son sosie vocal. Ah non. Et non, c'est un humain. Il s'appelle Jean-Baptiste Guégan. On l'a découvert en 2018 grâce au programme La France a un incroyable talent. Et alors, on a appris hier qu'il allait collaborer au biopic Johnny. Du journal Le Parisien qui révèle l'information. On apprend aussi d'ailleurs que le tournage du film a démarré le 1er juin. Il se terminera à l'automne. Mais alors, ce qu'on a surtout découvert, c'est que la voix du taulier va être reconstituée à partir de plusieurs sources, sans intelligence artificielle. Et alors, forcément, vu la ressemblance avec la voix de Jean-Baptiste Guégan, les producteurs auraient eu tort de se priver.
Est-ce que c'est un hasard ?
Et c'est à nouveau lui qu'on entend.
Ah oui, du coup, ça peut devenir un jeu. Guégan ou Johnny, quoi.
Voilà, et donc ils sont en plein enregistrement. Il y aura 25 chansons au total sur cette bande originale. Voilà, pour le biopic Johnny.
Ah, c'est Johnny.
Ah, là, c'est le vrai. Ah. Bah, lui, le seul.
Je l'ai. C'est bon. Je suis prêt à jouer. Je pourrais faire ça toute une soirée. 6h21 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous, les grands titres de l'actualité.
Réouverture pleine et entière du détroit d'Ormuz vendredi. C'est la promesse de Donald Trump. Pendant ce temps, le Premier ministre Sébastien Lecornu promet d'être vigilant à la baisse des prix à la pompe. Les distributeurs seront d'ailleurs reçus à Bercy à 11h. Ces milliers de personnes encore rassemblées hier devant les tribunaux du pays pour réclamer une loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans le sillage de l'affaire Liana, et puis les Bleus qui débutent leur Coupe du Monde ce soir à 21h face au Sénégal. Match à vivre évidemment sur RMC.
Et vous nous dites vos pronostics pour les Bleus au 32-16. Vous n'hésitez pas, on vous attend. Il est 6h21. Dans un instant, la consultation gratuite. Bonjour docteur.
Bonjour.
Aurel Gage est avec nous. De quoi est-ce qu'on parle ce matin?
Eh bien, les cannabis de synthèse, c'est censé vous faire planer, mais attention au crash.
À tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h25 sur RMC, RMC Story. C'est l'heure d'aller voir le docteur.
RMC, consultation gratuite.
Et alors, on a une alerte ce matin, alerte de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, qui donc alerte sur l'apparition de 40 nouveaux produits de synthèse, une hausse principalement portée par les cannabinoïdes de synthèse. Alors, de quoi on parle, Aurel ?
Eh ben, on pourrait croire que c'est du cannabis. Déjà, on va commencer par ça. Ce n'est pas du cannabis. Généralement, c'est vendu dans le commerce sous le nom de pète ton crâne, spice, K2, Bouddha Blue, spleen, tout ça. Eh bien, bien, ce sont des cannabinoïdes de synthèse. On va essayer de comprendre la différence. Le cannabis, c'est une plante, et dans le cannabis, vous allez avoir deux substances qui vont être psychoactives. La première, eh bien, ça va être le CBD. Le CBD qui va être utilisé pour son effet apaisant, qui est légal et que vous pouvez acheter. Et la molécule connue, eh bien, pour l'aspect récréatif, pour l'effet psychotrope, le THC. Le THC, il faut savoir que cette
molécule... Tu te rappelais que le CBD est légal, le THC ne l'est pas.
Le CBD est légal, le THC ne l'est pas, puisque le THC est justement la molécule qui procure l'effet récréatif, qui a un effet psychotrope important. Et donc c'est pour ça que cette molécule est interdite. Mais il faut savoir que dans les années 80, on s'est intéressé justement à l'activité de cette molécule. Et on a vu qu'elle s'intéressait à certaines cellules et à certains récepteurs. En gros, cette molécule, comme toute molécule chimique qu'on va donner pour avoir une activité, ça va être une clé qui va ouvrir certaines portes. Et on s'est intéressé à la porte dans les années 80, et on a vu que le THC contenu dans le cannabis naturel, alors oui, ça fonctionne pour l'effet psychotrope, mais c'est pas la meilleure molécule qui soit. Donc on s'est mis à créer des molécules qui avaient une affinité particulière pour ces portes-là. C'est-à-dire que on a créé des portes, des clés parfaites pour ces portes, pour les ouvrir totalement. Donc on comprend une chose, c'est qu'en fait, les cannabinoïdes de synthèse, ça se fixe sur les mêmes récepteurs que le THC du cannabis, mais ce n'est pas la même molécule.
C'est beaucoup
plus puissant. Vous allez avoir une action que vous n'aurez jamais, eh bien, justement, avec du THC.
Et du coup, c'est quoi les risques?
Eh ben, les risques, c'est les mêmes. Ils sont beaucoup, beaucoup plus importants. Premier risque, on va avoir en psychiatrie, eh bien, l'addiction. On va avoir, d'un point de vue neurologique, on peut avoir même du coma. Alors, pour vous donner une idée, moi, aux urgences, j'ai jamais eu un seul patient qui, à la suite de prise de cannabis, donc de la plante, venait pour coma. Là, on a des cas de coma.
Vous en voyez-vous, là, aux urgences?
Alors, moi, j'ai pas eu encore de cas de coma, mais on en voit arriver des cas de coma. On a déjà eu des cas de coma face à la prise de cannabinoïdes de synthèse. Ensuite, on va avoir les problèmes cardiovasculaires. Et puis, chez certaines personnes, on peut aussi avoir des problèmes digestifs.
C'est inquiétant, surtout qu'il y a un flou juridique en fait, c'est-à-dire que ces molécules, il y en a 10 qui arrivent chaque semaine, le temps de les interdire, il y en a de nouvelles qui arrivent.
Bah en fait, quand on pense à la clé, vous imaginez bien, vous changez un tout petit peu votre clé, vous changez une petite molécule, son positionnement, et c'est plus la même molécule. Voilà. Donc vous dites juste, pas pour la consommation humaine, et vous arrivez à mettre ça sous forme de poudre et à vendre ça dans le commerce.
Merci Doc, on n'hésite pas à vous demander ce qu'on veut sur le WhatsApp RMC. Je vous rappelle le chemin 0612 424 424. Il est 6h28, c'est l'heure de jouer.
Et c'est l'heure de jouer avec Nicolas qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Nicolas.
Salut Nicolas.
Oui, bonjour.
Comment ça va Nicolas?
Ben ça va bien et vous? Impeccable, j'ai gagné donc ça va, je suis content.
Attendez, vous savez pas encore si vous avez gagné,
normalement.
Alors c'est quoi le mot caché, Nicolas, dites-nous.
Normalement c'est gauverger, si j'ai bien écouté.
Exactement. Prendre ses aises, se prélasser.
Exactement, ce que j'ai regardé sur internet, oui.
Bah nous aussi on a internet, Nicolas. Vous repartez avec la montre Kelton. Félicitations, la marque icône pop de l'horlogerie française qui fête ses 70 ans. On vous envoie ça dans les Pyrénées-Atlantiques, Nicolas.
D'accord, merci à vous, bonne journée.
Bonne journée,
bonne
salut.
Bonne journée, à l'écoute d'RMC.
5-7, le Morning RMC.
Très bon réveil à tous, c'est l'heure du journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
Et à la une, bien sûr, la Coupe du Monde qui commence enfin pour les Bleus.
On sera à côté de Bordeaux, dans une fan zone, et à New York aussi pour les dernières infos sur la journée des Bleus avant leur match ce soir contre le Sénégal. Le conflit au Moyen-Orient, Donald Trump assure que le détroit d'Ormuz sera rouvert totalement vendredi, et le statut de la Corse, il en sera débat aujourd'hui à l'Assemblée Nationale, on va vous dire ce qui pourrait changer.
Et la France se prépare donc au tout premier match des Bleus à la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors vous savez qu'il y a des villes, pas toutes, hein, mais certaines, qui ont installé des fan zones pour l'occasion, comme à Mérignac, donc à côté de Bordeaux, où les risques ouvertement redoutés de débordement n'ont pas dissuadé la mairie. Hein, c'est ce que nous disent Pierre Bourgès et Léonie Guilbeault pour RMC.
Maillot de foot sur le dos, David est prêt pour le match de demain et pas de doute, il vivra ça à la fan zone.
On va boire une petite bière, on se met devant le grand écran et puis c'est parti quoi. C'est un kiff.
Et avec 800 personnes rassemblées pour encourager les Bleus, pas question de rester chez lui, il veut vivre l'ambiance Coupe du Monde à fond.
Le côté un peu vibrant comme dans un stade et tout ça, la foule, sans doute les chants, ce côté un peu ambiance, ouais. Et je verrai mieux le match en plus, sur un grand écran, c'est plus sympa.
Pour beaucoup, c'est aussi une bonne occasion de se réunir et d'échapper au quotidien.
Le côté
festif fait du bien.
Avec tout ce qui se passe, les guerres, les choses comme ça, il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on rigole, c'est important.
Et les fan zones, je pense que ça permet de réunir tout le monde, d'être unis, d'aller tous dans le même sens pour un événement, c'est important.
C'est cette ferveur qui a décidé la mairie à organiser une fan zone et tout a été mis en place pour que l'événement se passe bien.
On aura la police municipale qui sera mobilisée pour l'occasion, le service des sports également, la logistique de la mairie.
Thierry Trijoulet, maire de Mérignac.
On ne craint pas l'événement, on est capable de l'assumer de façon très sereine et en toute sécurité.
Aucun couvre-feu non plus n'est prévu, la fête pourra donc durer jusqu'au bout de la nuit en cas de victoire des Bleus.
C'est au stade de New York que les Bleus joueront ce soir contre le Sénégal, juste à côté du studio de RMC. D'ailleurs, on sera vraiment aux premières loges pour vous raconter tout ce qui entoure ce premier match donc de la France à 21h. Heure française, mais qui tombe en plein après-midi avec le décalage horaire aux États-Unis. C'est inhabituel pour un match international, Arthur Perrault.
Oui, pour ce match programmé à 15h heure américaine, les Bleus changent quelques habitudes. L'ultime séance vidéo, habituellement organisée le matin du match, a été avancée à hier soir dans l'hôtel du groupe France à Jersey City. Autre changement, le réveil musculaire a tout simplement été supprimé. Pour le reste, Didier Deschamps tient à préserver la routine petit déjeuner, puis déjeuner assez tôt avec l'ensemble du groupe. Puis viendra le moment des dernières consignes du sélectionneur, l'occasion de remobiliser ses joueurs, d'annoncer une composition d'équipe qui devrait être proche de celle alignée lors du dernier match de préparation face à l'Irlande du Nord, avec les cadres habituels, William Saliba en défense, Adrien Rabiot au milieu de terrain, Ousmane Dembélé, Michael Olise en attaque, aux côtés du capitaine Kylian Mbappé.
Alors les derniers résultats et les dernières infos de la Coupe du Monde que vous avez vécu sur RMC toute la soirée, toute la nuit. D'abord, à l'instant, on apprend que la Tunisie limoge son sélectionneur Sabri Lamouchi après la débâcle contre la Suède 5-1. C'est Hervé Renard qui remplace donc Sabri Lamouchi. À l'instant, là, on l'apprend. Oui.
Parce qu'il y a eu un quiproquo hier. Un coup, ils l'ont viré, puis finalement pas.
Exactement. Ils l'avaient annoncé, ils ont supprimé la publication. Et là, à l'instant, donc.
Hervé Renard sur un banc de Coupe du Monde.
Voilà. Donc, il est le nouvel entraîneur, le nouveau sélectionneur plutôt de la Tunisie. L'Espagne qui a fait match nul contre le Cap-Vert, ça c'était un petit peu plus tôt hier. 0-0, surprise. La presse espagnole parle d'un naufrage d'une équipe sans âme. Match nul aussi entre l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Un partout. Il y a eu 2-2 cette nuit, c'était l'Iran, la Nouvelle-Zélande, ce match qui se jouait. Nous sommes l'équipe la plus maltraitée de toute la Coupe du Monde, ça c'est ce que dit à l'instant le sélectionneur iranien. Ça se joue à Los Angeles, la communauté iranienne manifestait avant le match dans un contexte évidemment pesant après l'annonce d'un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Tiens, dans la soirée, depuis le sommet du G7 à Évian, il y a Donald Trump qui a promis une réouverture totale du détroit d'Ormuz pour vendredi.
Alors, autre réaction dans la soirée, Quentin, celle d'Israël.
Oui, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui est en pleine campagne électorale, a pris la parole pour défendre et justifier ses opérations militaires, que ce soit en Iran ou au Liban, Lou Garnier.
Très vite, Benjamin Netanyahou donne le ton. L'accord conclu entre Washington et Téhéran ne va rien changer à la position d'Israël.
Je vous le dis, citoyens d'Israël, la lutte n'est pas terminée. Nous devons continuer d'être vigilants, d'être forts et de nous protéger tant qu'il faut. Nous avons établi de larges zones de sécurité autour d'Israël. Nous l'avons fait à Gaza, au Liban et en Syrie. Et je tiens à le dire, nous resterons dans ces zones de sécurité aussi longtemps qu'il le faudra pour protéger notre pays.
Et ce, malgré l'accord de paix qui prévoit la fin des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Face aux critiques de l'opposition, Benjamin Netanyahou défend le bilan de sa guerre contre la République islamique d'Iran.
Nous avons éliminé les dirigeants du régime terroriste, nous avons détruit des installations stratégiques ainsi que des missiles et la grande majorité des usines qui les fabriquent.
La guerre contre l'Iran a permis de sauver l'État d'Israël de la menace d'un anéantissement nucléaire, a-t-il assuré, avant de confirmer son intention de briguer un nouveau mandat lors des prochaines élections législatives.
La conséquence sur les marchés financiers, le baril du pétrole en baisse de 5% là, ces dernières heures. Chez nous, les distributeurs seront reçus dans la matinée à Bercy pour parler des prix qui baissent. Hein, le gazole en dessous des 2 euros le litre pour la première fois depuis le 7 mars. Ça, c'est ce que nous disent les tout derniers chiffres du gouvernement.
L'autre gros dossier du jour, c'est celui du statut de la Corse.
Oui, les députés vont examiner aujourd'hui le projet de loi qui prévoit de modifier la Constitution pour accorder à la Corse un statut d'autonomie au sein de la République. C'est une revendication de longue date des nationalistes. Emmanuel Macron a ouvert la porte à ce changement en 2022. Mais alors, Sonia Gobry, le sujet est évidemment très sensible.
Au-delà du symbole, si l'autonomie est accordée, les Corses pourront voter leur propre loi dans certains domaines qui restent à définir. Le député Liot de la Corse du Sud, Paul-André Colombani, assure que l'attente est grande.
C'est pas l'autonomie par caprice, c'est une autonomie pour changer le quotidien de la vie des Corses, parce que les règles qui vont bien à Paris ou en Bourgogne, de temps en temps, sont mal taillées pour la Corse, et donc on voudrait pouvoir gérer au mieux le quotidien de la vie des Corses.
Pas de chèque en blanc, prévient le député LR de la Haute-Corse, François-Xavier Secoli, hostile au statut d'autonomie de l'île, il réclame au moins des garde-fous.
Nous, on considère que si on a un certain nombre de garanties, et le cœur du réacteur, c'est le contrôle du Parlement sur les propositions faites par l'Assemblée de Corse, ça nous suffit. Voilà, même si tout n'est pas parfait, on pourrait ou voter pour ou s'abstenir.
Le projet de loi constitutionnel ne reconnaît pas le corse comme langue officielle. En revanche, le texte consacre la communauté corse, qui se distingue par son histoire, sa culture, ses intérêts propres, une notion contestée par les LR et le RN. Ils craignent que cela ouvre une brèche dans le principe de république une et indivisible.
Le collectif tient des usagers de la ligne de train entre Paris et Clermont demande des explications à la SNCF au lendemain de la gigapanne sur cette ligne maudite, un intercité qui est parti hier matin de Paris, arrivé avec près de 8 heures de retard. La faute à une panne, une énième panne, ça, c'était, cette fois c'était de locomotive et ça s'était passé dans le Loiret.
Le quintet c'est à Nantes aujourd'hui.
18h40 ce quintet, les pronostics de la Dream Team pour aujourd'hui, le 3 et le 2. Le 3 en favori Grand Passen et le 2 en outsider Grécian Star.
Merci beaucoup. Bonjour Quentin Vinet, c'était le journal 6h37, on va accueillir Samir au 32-16 depuis Rennes. Bonjour Samir.
Bonjour Samir.
Bonjour. Vous allez bien?
Oui, ça va et vous?
Ouais, merci, ça va, tranquille.
Bon, vous consommez l'actu où vous, sur les réseaux ou uniquement sur RMC?
Moi depuis tout jeune déjà, à l'époque des Francs, c'était j'allais au collège et au lycée. Je prenais mon Parisien à 5 francs, j'allais au tabac, je prenais mon Parisien, je partais. J'ai toujours consommé le
l'actualité, l'information,
le journal papier,
ouais,
même.
Journal papier, même aujourd'hui je me lève le matin, je regarde le Parisien sur mon téléphone après RMC, toujours RMC.
Mais les médias traditionnels.
Surtout RMC, BFM. Je vais pas regarder votre chaîne concurrente CNews. Je vais pas là-dedans.
On parlait d'information là, Samir.
Ouais, c'est pour ça. Non, mais ce que j'aime beaucoup dans RMC, dans BFM TV, mais après les grandes gueules, c'est la pluralité des personnes que vous puissiez inviter, les supports. Et le format, en fait, qui est vraiment intéressant, et j'ai envie de dire aux jeunes, c'est vers là qu'il faut aller, même aux moins jeunes, hein, sur les vieux, sur Facebook, là. N'écoutez pas tout ce qui se dit sur les réseaux, parce que c'est pas bon, en fait.
Et oui, parce que donc on a appris ce matin que ça y est, hein, les réseaux sociaux ont détrôné, entre guillemets, les médias traditionnels dans la consommation à l'échelle mondiale, en plus. Hein.
Et Samir l'a dit.
Continuera à vous écouter, moi, quoi qu'il arrive.
Merci, Samir. Mais Samir, vous avez raison sur un truc que vous avez dit qui est très important. C'est quand on parle des réseaux et des nouveaux moyens de communication, on parle sans arrêt des jeunes. Et la réalité, c'est qu'en termes de fake news et de grand n'importe quoi qu'on voit sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, les seniors sont aussi concernés. Mais merci, Samir, de revenir mettre l'église au milieu du village, comme on dit. C'est marrant parce qu'on était censé, t'étais à deux doigts de dire on va aller se coucher, ils nous écoutent plus les gens.
Bah oui, je suis rassuré.
Et on a les plus aguerris de l'info. Samir Arène, merci beaucoup, merci de votre appel. Il est 6h39 sur RMC. Dans un tout petit instant, on sera avec ce restaurateur gersois cambriolé dans une nuit qui a décidé de publier le visage et le nom de celui qui l'accuse.
Bonjour Yannick Piton.
Et bonjour.
À présent, vous risquez aussi des ennuis, hein, puisque vous, pour non-respect de la présomption d'innocence et atteinte à la vie privée, on entendra votre indignation dans un instant.
Mais la bande du morning est là aussi, Virginie Fulpin pour la causerie.
Cette année, c'est pas le 21 juin le jour le plus long, c'est aujourd'hui.
Et Anthony Morel pour la tech.
Est-ce que l'intelligence artificielle peut faire mieux que Paul le Poulpe?
C'est pas le sujet de philo d'hier. À tout de suite, il est 6h39.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h43 sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous.
Bonjour Yannick Piton.
Et bonjour.
Vous êtes patron de la brasserie Le Bastion à Lectour dans le Gers et vous avez été cambriolé dans la nuit de mardi à mercredi dernier. La caisse avec 2 jours de recettes et des cartouches de cigarettes également ont disparu, ce qui représente plusieurs milliers d'euros. Alors pour dénoncer cela, vous avez décidé de publier plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux.
On s'est fait braquer cette nuit par un petit jeune que je connais. Il a pas de cul, il est originaire de la même ville que moi. Je pense que tu savais pas où tu mettais les pieds, mon petit garçon. Ce que tu sais pas, c'est que j'ai 14 caméras partout à l'établissement. On va mettre une petite photo de toi.
Et en fait, au début, vous avez publié une vidéo en masquant le visage, puis une deuxième avec son prénom, etc., etc. Et vous avez finalement partagé le visage et l'identité du cambrioleur. 12 millions de vues plus tard, il a été reconnu et arrêté.
Exactement, ouais.
Donc c'est la première étape.
C'est la première étape, oui, la première vidéo où c'est que ben c'est vraiment j'ai fait ça sur le moment, sur le coup de la colère, je sortais de la gendarmerie. Voilà, j'ai été porté plainte à Florence. Tous les gendarmes que j'ai vus, je les ai trouvés extrêmement fatigués avec tout ce qui se passe en ce moment dans le Gers.
C'était la semaine dernière, oui. Évidemment, les gendarmes de Florence, rappelons que c'est la commune où a disparu et a été tuée la petite Liana. Je le précise pour ceux qui n'auraient pas fait le lien, évidemment, mais je peux comprendre que le gendarme de Florence, la semaine dernière, ait eu la tête ailleurs.
Ouais, voilà, ouais. Ils font un boulot formidable. Ils se donnent à fond. Et franchement, quand je les ai vus, ils sont dans un état, ils sont vraiment très fatigués. Ils font un boulot remarquable. Mais quand je suis sorti de là, bon, j'ai compris que j'allais pas forcément être la priorité, ça allait pas forcément avancer. Quand mon copain du Massalé de Valence-sur-Bise m'a appelé, m'a dit qu'il avait été cambriolé lui aussi par la même personne, et qu'au bout de 2 ans, ça avait rien donné. Gros coup de colère, j'ai dit on prend le téléphone, on fait une vidéo et puis je vais lui adresser directement un message sans penser que ça fasse autant le buzz.
Mais alors il est devenu quoi le suspect? Il a été arrêté? Vous savez où en est la procédure?
Alors le suspect lui a été arrêté 2 heures après la diffusion de la troisième vidéo, quand je dévoile son visage, donc comme quoi ça a été très efficace parce que les gens l'ont reconnu de suite et ont appelé les forces de l'ordre là où il se trouvait pour le signaler.
Bon, alors Yannick, ça c'est la partie où vous identifiez ce suspect, où il est interpellé. Je sais que vous êtes aussi en colère puisqu'il a été relâché assez rapidement. Seulement, vous saviez en publiant ces vidéos que vous n'étiez pas dans votre droit, Yannick.
Ah oui, j'ai fait ça en toute connaissance de cause. Mais bon, à un moment donné, on est dans un pays, malheureusement, nous, on fait l'actualité en ce moment par rapport à Liana. C'est vraiment bien plus triste que mon sujet à moi, mais on est dans un pays où c'est que, on se fait voler, il faut se taire. On se fait violer, il faut se taire. À un moment donné, stop. Je préfère assumer mes actes. Oui, je l'ai dénoncé, oui, je l'ai affiché. Et j'assumerai, moi, mais les conséquences, il n'y a pas de problème.
Les conséquences, on les rappelle. Hein, vous pouvez être poursuivi pour non-respect de la présomption d'innocence et atteinte à la vie privée. Et vous risquez jusqu'à 1 an de prison et 45 000 euros d'amende. Sans compter le fait de, si vous avez un casier judiciaire, perdre votre licence 4, évidemment utile à votre établissement. Vous regrettez pas?
C'est pas que je regrette pas, c'est qu'à un moment donné... Il faut prendre des décisions fortes. Il faut que les choses changent. Il faut que ça bouge. Donc, voilà, sur le coup de la colère, tant pis. Du coup, dans tous les cas, moi, du boulot, j'en trouverai. C'est pas un souci. Mais quand je vois que il fait même pas ces mois de prison qui étaient prévus comparé à toutes ces condamnations, là, vous voyez, 24 heures après, il est déjà dehors. Je me dis, au final, qu'est-ce qu'on risque?
Yannick Piton, la vraie question que pose votre affaire, mais vous le sous-entendez, hein, quand vous dites à un moment on n'est pas censé se faire braquer et se laisser faire, c'est complètement illégal, c'est condamnable ce que vous avez fait. Mais en fait, on est en train d'arriver à un moment où si ça suit pas, les gens sont en train de se régler leurs problèmes tout seuls, quoi. Ça sert à rien d'aller à la gendarmerie, ça sert à rien d'avoir un recours à l'État.
Alors, non, je dirais pas ça. Le but de ma démarche, c'était vraiment, dans un premier temps, nous, à Lectour, on a un groupe WhatsApp, les restaurateurs, tous ensemble, où c'est que, justement, on s'avertit, on se communique les noms, les photos, parce que, malheureusement, ce qu'on appelle les restos basket, il y en a de plus en plus. Moi, j'en ai pas tous les jours, mais j'en ai très souvent.
Et du coup, voilà, des gens qui partent sans payer du resto.
Voilà. Du coup, on se transmet les informations, on décrit les personnes. Parce que comme ça, ça évite de subir les mêmes préjudices les uns les autres. Donc c'est notre petit collectif où on s'avertit tous ensemble. Et dans un premier temps, moi j'avais vraiment fait ça pour l'électorat, parce qu'il est il est très connu de l'électorat, et pour que tout le monde soit au courant de ce qu'il avait fait à 3 commerces différents de la ville. Quoi.
Et en fait, vous vous sentez pas assez protégé?
Non, c'est. Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec les moyens qu'ils ont, les gendarmes?
Bah pardon, juste là, j'entends moyen, Yannick Piton. Vous avez l'air de dire que tout le monde connaît cet individu, que tout le monde sait qui c'est, que tout le monde connaît ses pratiques, qu'il a déjà été condamné. Bah, pardon, je vois pas. Vous dites, je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Si, ils lui mettent les menottes, ils s'en occupent. Quoi. Enfin, pardon, Yannick Piton.
Ah ben oui, ils lui ont mis les menottes.
Non, mais parce que vous dites qu'ils ne peuvent rien faire. Ben si, en fait.
Si, si, ils peuvent lui mettre les menottes. Mais regardez, ils lui ont mis les menottes samedi. Dimanche, il était dehors. Donc, il y a un sentiment d'injustice.
Vous avez posé la question ou pas au service de police ou de gendarmerie de savoir pourquoi il était déjà dehors?
Non, très honnêtement, non. Moi, du coup, j'ai demandé donc au maire de la ville, à Julien Pélissère, et il m'a dit qu'il allait se renseigner, donc il va me donner plus d'informations aujourd'hui, je pense. Et c'est tout.
Probablement une procédure en cours. Enfin, j'espère pour le moins. Yannick Piton, merci d'avoir répondu à nos questions. On suivra pour voir ce qu'il en est. Et puis vous, tenez-nous au courant aussi de ce qui pourrait se retourner contre vous, hein, évidemment, puisque, rappelons-le, c'est illégal de publier la photo de qui a fait un resto basket, à qui est venu et a été filmé par une caméra de surveillance. Merci Yannick Piton d'avoir répondu à nos questions. Patron du bar-restaurant PMU, le Bastion à Lectour, dans le Gers. Il est 7h10. Les grands titres à la une de l'actualise.
Le détroit d'Ormuz, pleinement rouvert vendredi. C'est la promesse de Donald Trump qui refuse au passage l'aide de la France pour y parvenir. Pendant ce temps, le Premier ministre Sébastien Lecornu promet d'être vigilant à la baisse des prix à la pompe, qu'il espère aussi rapide que les hausses. Les distributeurs seront d'ailleurs reçus à Bercy ce matin à 11h. Des milliers de personnes encore rassemblées hier devant les tribunaux du pays pour réclamer une loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans le sillage de l'affaire Liana. Et puis on va en parler dans un instant avec Virginie. Les Bleus débutent leur Coupe du Monde ce soir face au Sénégal. Coup d'envoi à 21h.
Il est 6h50. Eh oui. Coup d'envoi à 21h. Virginie, dans un instant, Anthony Morel, vous savez qu'il est sur la Coupe du Monde aussi ce matin. Il s'est mis au diapason. On est tous aux couleurs des Bleus aujourd'hui. Alors, c'est un bleu foncé. Hein. Anthony, pareil.
Et Virginie, elle est venue quand même.
Virginie est en bleu, évidemment. Et Virginie va vivre une très, très, très longue journée.
En fait, je me suis levée ce matin. J'ai directement commencé à compter les heures. C'est la même chose à chaque début de Coupe du Monde des Bleus. Voilà, autant vous le dire, aujourd'hui je vais prêter absolument aucune attention à ce qu'on va me raconter. Virginie, t'as gagné à l'euro-million, ouais, super. Bon, alors là j'exagère peut-être un peu, mais je confesse par avance une certaine distraction avec les gens que je vais rencontrer, à part les 10 fois où je vais passer à la machine à café, histoire de faire le match à l'avance avec les collègues. On va s'écharper pour savoir à quelle place doit jouer Dembélé. On est tous un peu les Didier Deschamps de la cantine aujourd'hui. Hein. Même ceux qui regardent les matchs tous les 4 ans ont un avis, c'est ça, la magie de la Coupe du Monde.
Et on se rappelle bien sûr les Coupes du Monde précédentes.
Bah, vous voyez celui ou celle qui est très fier de suivre le foot depuis longtemps et qui vous bassine avec ses souvenirs. Bah, c'est moi. Et je peux vous dire que le France-Sénégal de 2002, je m'en souviens comme si c'était hier. On y allait pour la gagne, quoi. Avec les meilleurs buteurs d'Europe, Djibril Cissé en France, David Trezeguet en Italie, Thierry Henry en Angleterre. Comment ça, on n'a pas marqué un seul but, on a perdu 1-0, vous ne l'avez pas vu? Mais vous savez, c'est à partir de ce moment-là que le Sénégal... Tais-toi, Virginie, c'était il y a 24 ans. Désiré Doué n'était même pas né, Kylian Mbappé apprenait à peine à marcher. N'empêche que comme c'était en Asie, le match était le matin et la journée était moins longue. Hein.
Et là, forcément, Virginie, il y a un mélange de stress et d'excitation.
Ouais, c'est infernal, cet avant-match. Vous n'êtes certainement pas aussi ridicule que moi, mais moi je cherche et je trouve d'ailleurs des signes partout. J'entends le métro qui arrive à quai, je me dis que si j'arrive à monter dedans, c'est bon, les Bleus vont gagner, alors que si je le rate, ils vont perdre. C'est et ce sera peut-être un petit peu de ma faute.
Pardon, appelez Aurel Gage.
Ouais, je suis désolée, ce matin, vous êtes un peu les psys du ballon rond, je vous dis tout, c'est comme ça tous les 4 ans. Tiens, par exemple, si Élise et Mathieu me disent merci, je pense que c'est bon pour ce match ce soir.
Merci Virginie.
Voilà, c'est bon, on va gagner.
Ça fait 2-0. Un petit prono, Virginie?
3-2 pour la France.
3-2 pour la France. Un beau match en plus.
Ouais.
Allez, on y va. Après, qui va gagner la Coupe du Monde? C'est pas vous qu'on pose la question. C'est Anthony Morel.
Eh ben oui, parce qu'on peut prédire.
Tout le monde s'est arrêté, c'est bizarre.
On peut prédire les résultats de cette Coupe du Monde, Anthony. Vous avez fait tourner les algorithmes. Est-ce qu'on sait qui va gagner ou pas?
Oui, alors je ne voudrais pas nous porter la poisse, surtout après ce que vient de nous dire Virginie, mais si l'on en croit l'intelligence artificielle, bah, ce ne sera pas la France. Voilà, je suis désolé de vous le dire. Et ne tirez pas sur le messager.
Mais
je sais.
Et on a des cailloux magiques en plus.
Alors, je vais essayer de relativiser un petit peu ce que je viens de dire. Mais si on en croit, alors c'est notamment Opta, que tous les fans de statistiques footballistiques connaissent. C'est une entreprise qui fait tourner des super calculateurs. En gros, ils font tourner des simulations de milliers de fois le même match en prenant en compte un certain nombre de paramètres, donc la forme relative des joueurs au moment donné, les affrontements passés entre deux équipes, enfin plein d'informations comme ça, et à partir de ça, ils arrivent à des statistiques. Et donc quand on fait ça sur l'ensemble de la compétition, eh ben on arrive à des probabilités. Les probabilités, eh bien, c'est l'Espagne qui l'emporterait. Ils ont 16% de chances de l'emporter, si l'on en croit donc Opta.
Ouais, ils avaient 85% de chances de l'emporter hier et ils l'ont pas fait.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Vu le démarrage, peut-être que leur cote a un petit peu baissé. La France serait à 13%, l'Angleterre 11%, et puis tout en bas du classement, on a bah du coup le Cap-Vert à 0,04, mais ils ont peut-être remonté. Et Curaçao à 0. On aurait 60% de chances de terminer en tête de notre groupe, 21% d'arriver en finale. Bon, ça veut dire que si on joue.
Voilà. C'est beaucoup.
Ouais, c'est énorme. Ça veut quand même dire que si on jouait la Coupe du Monde 10 000 fois, on la remporterait 1 300 fois. Ça laisse quand même une certaine marge d'erreur.
Il est dans un autre univers.
Mais c'est ça quand on parle de statistiques.
Mais on la joue qu'une fois.
C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas trop se fier à ça.
C'est fiable, non.
Alors, en fait, ça peut être fiable. Ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde les données du passé. Et notamment, il y a une intelligence artificielle, celle du jeu FIFA. Alors, qui ne s'appelle plus FIFA maintenant, c'est FC. Mais avant, ils faisaient une simulation avant chaque compétition. Eux aussi, ils ont plein d'informations sur les joueurs. Et je me souviens très bien, en 2018, je vous mens pas, hein, ils avaient prédit, donc le jeu vidéo avait prédit que la France éliminerait l'Argentine en 8e, l'Uruguay 2-0 en quart, sortirait la Belgique en demi-finale et remporterait la compétition. Fallait quand même le voir avant le début de la compétition. Et pour la petite anecdote, on avait un concours de pronos en interne, il y a 4000 personnes qui jouaient, moi j'y connais rien en foot, j'avais entré tous les pronos de l'IA et j'avais fini 2e sur 4000. Voilà, donc ne misez pas vos économies.
Faut miser sur l'IA quand même.
Oui, mais ne jouez pas.
Faut surtout miser sur Anthony Morel. Voilà.
Visiblement. Non, c'était peut-être un énorme coup de chance. Ne misez pas vos économies en paris sportifs sur ce que je viens de vous dire. Je vous le dis tout de suite.
Vous allez parier sur la base de ce que vous avez entendu.
Moi, c'est simple, je vais suivre Anthony. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Excellent réveil à tous. Attention, il fait chaud. Bon, allez, début de la Coupe du Monde, vous l'aurez bien compris. C'est aujourd'hui pour la France. Est-ce que ça y est, vous êtes rentré dans la compétition? Est-ce que vous êtes prêt à vous lever à pas d'heure pour regarder les matchs? Alors, pour ce soir, c'est bon parce que les Bleus jouent à 21h. Venez nous raconter vos pronos, vos stress, vos excitations, vos envies. On vous attend au 32-16 et sur le WhatsApp de RMC 06-12-424-424, c'est le grand jour.
5-7, le Morning RMC.